France Culture.
Oubliez tout ce que les publicités ont voulu vous faire croire sur les fromages dont la recette a traversé les âges depuis la nuit des temps. Ces fromages qui sont dans nos assiettes ont au mieux un héritage en vague lien avec le Moyen-Âge, mais sont surtout conditionnés par l'histoire récente de l'industrialisation de la production du lait. Dans ces conditions, comment s'approcher du goût et des recettes des fromages antiques qui étaient centraux dans l'alimentation de certaines populations? C'est la mission technique et gustative à laquelle s'attellent des chercheurs en archéologie expérimentale qui, chemin faisant, redessinent une histoire des techniques, une histoire des mentalités et plus généralement une histoire populaire grâce à cette archéologie de l'alimentation. L'entretien archéologique se fait donc aujourd'hui gastronomique et vous apporte sur un plateau des connaissances affinées sur les fromages. C'est la fête, on ne se refuse rien en matière de jeu de mots. Dominique Frère, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'archéologie et d'histoire ancienne à l'Université Bretagne Sud. Vous êtes membre du laboratoire Thémos pour Temps, Monde, Société et vous avez écrit le livre Fromages antiques à la recherche des fromages perdus aux presses universitaires de Rennes. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et merci de venir partager aujourd'hui vos recettes de fromages antiques. On va voir que derrière l'aspect banal du fromage, l'archéologie nous révèle toute une histoire technique, culturelle et sociale. Et ma première question, Dominique Frère, sera assez simple. L'histoire du fromage est, comme on va le voir, une histoire intimement liée à celle de l'élevage. Mais est-ce qu'on peut dire qu'avant le néolithique, les humains connaissaient déjà, d'une certaine façon, des proto-fromages? Et si oui, lesquels?
Alors, c'est une question difficile parce que, évidemment, nous n'avons strictement aucune source. Un fromage ne peut pas se conserver sur des milliers d'années. Il n'y a que des hypothèses et en fait nos ancêtres du paléolithique étaient aussi des chasseurs et en tant que chasseurs on peut penser aussi qu'ils étaient bouchers et en tant que bouchers donc ils savaient très bien dépecer un animal, c'est vraiment un travail de boucherie et peut-être se régalaient-ils du contenu d'un des estomacs justement des ruminants et un estomac justement qui est riche en enzymes, c'est ce qui permet de la fabrication du fromage, ce qui fait que le lait digéré par les jeunes, que ce soit donc les ancêtres des chevreaux, des veaux, justement des vaches sauvages, leur estomac était plein de ce qu'on pourrait appeler du fromage, tout
donc,
simplement.
De toute façon, on a découvert le fromage en dépeçant de jeunes ruminants qui avaient dans leurs estomacs déjà un proto-fromage.
Sans doute que c'était justement pour eux un régal. Et peut-être qu'on est à l'origine justement de l'invention de la présure, de la présure d'origine animale.
On parlera bien sûr de comment on fabrique du fromage et comment on a découvert, comment on a mis au point ces premières recettes de fromage. J'évoquais le néolithique, bien sûr, l'agriculture, la domestication, des bovins notamment, mais pas seulement, des ovins, des brebis, des chèvres. Est-ce qu'on a une idée de la place qu'occupait la production laitière dans cet élevage-là? Est-ce que c'était une place centrale ou bien est-ce que c'était plutôt secondaire?
Autrefois, on pensait que ce qu'on peut appeler les laitages en général occupaient une position secondaire dans les pratiques alimentaires et dans les objectifs de la domestication animale. On s'aperçoit maintenant que les produits laitiers sont au centre, en fait, de la domestication animale, de la domestication de ce qu'on peut appeler de manière générale les bêtes laitières. On s'en aperçoit tout simplement parce que dès l'origine de la domestication, en fait, on fabrique des laitages.
Alors, on fabrique des laitages. Le fromage, dans tout ça, quelle place occupe-t-il dans cette fabrication de laitage et quel intérêt concret y a-t-il à fabriquer du fromage?
Alors, l'intérêt est simple, c'est-à-dire que le lait cru ne se conserve pas très longtemps, on va dire 3 jours au maximum. Il est très dangereux de consommer du lait cru parce qu'on a évidemment toute la phase de transformation du lait qui va conduire de la fermentation jusqu'au pourri, tout simplement. Et on peut dire que la définition la plus simple du fromage, mais pas seulement du fromage, de tous les laitages en général, que ce soit le beurre, le lait fermenté, le fromage, puis plus tard le yaourt, c'est une conserve de lait.
Alors, la néolithisation des cultures commence dans le croissant fertile. Est-ce que les premières traces de fromage se situent dans cette aire géographique ou bien y a-t-il des régions qui vont, plus que d'autres, fabriquer des fromages pour cette période néolithique déjà?
Alors, c'est le croissant fertile, évidemment. Puis, avec la diffusion du néolithique vers l'Occident, vers l'Ouest, on voit apparaître les premières faisselles en Europe centrale et en Europe occidentale à partir du 6e millénaire avant Jésus-Christ. Ce qui fait que, oui, dès qu'il y a domestication des bêtes laitières, il y a fabrication du fromage.
Quelle difficulté y a-t-il pour vous, en tant qu'archéologue, à retrouver ces traces de fromage, puisque ce sont des produits qui ne se conservent pas par définition, puisqu'ils sont organiques. Alors comment on va mener cette enquête-là ?
Alors, on a un objet qui est caractéristique de la fabrication du fromage, c'est la faisselle. Donc, la faisselle qui sert à égoutter le caillé, à se débarrasser en particulier du petit lait. Mais avec le problème, c'est d'abord, il faut savoir identifier une faisselle. Tout vase passoire n'est pas forcément une faisselle. Un vase passoire a pu servir à autre chose qu'à égoutter le caillé. Et ensuite, deuxième problème, c'est que, on le voit en ethnographie, par exemple, la plupart des faisselles, jusqu'à une date récente, on va dire jusqu'au 19e siècle, même 20e siècle, les faisselles étaient en bois et en vannerie. C'est-à-dire qu'archéologiquement, le bois et la vannerie, il faut des conditions particulières pour que ces faisselles en bois et vannerie soient conservées.
Alors là, vous posez une question très importante, Dominique Frère, c'est celle des sources matérielles qui vont nous permettre d'attester de la production du fromage. Vous parliez des faisselles en céramique, de ces objets parfois en vannerie qui permettaient de fabriquer du fromage. Quels sont les autres sources, preuves évidentes, objectives de la fabrication du fromage dans des périodes reculées?
Alors, évidemment, on va parler de la vaisselle laitière en général, ou la vaisselle fromagère, la vaisselle laitière, qui était caractéristique de nos campagnes jusqu'à une date qui n'est pas si lointaine que cela. Donc, une vaisselle qui est en céramique, elle a du néolithique même jusqu'au 19e siècle. Des pots à lait, des seaux, on peut appeler ça aussi des pots, donc pour la traite. Et souvent, c'était dans les mêmes contenants que donc on pouvait traire l'animal et faire cailler le lait. Et on a différentes catégories de vaisselle laitière. Mais le problème, c'est comment identifier un pot à lait, si ce n'est par le recours à des analyses chimiques, des analyses chimiques de contenu. Parmi les autres sources matérielles, il y a les sources évidemment archéozoologiques qui jouent un rôle très important, c'est-à-dire l'étude des ossements des bêtes laitières, que ce soit des brebis, des chèvres, des vaches, et une étude sur la date d'abattage qui permet de savoir si ces animaux ont été exploités pour leur lait. Mais en sachant que même jusqu'à une époque récente, il n'y avait pas de véritable spécialisation dans nombre d'élevages. Quand vous aviez des vaches, par exemple, ces vaches servaient à différentes fonctions, y compris celle de produire du lait.
Donc là, c'est des traces finalement, d'une certaine façon indirecte, par l'âge de l'abattage. On sait qu'on tuait les plus jeunes pour que les vaches ou les brebis, etc., continuent à produire du lait en continu, c'est ça ?
Une partie des plus jeunes, et les mâles, évidemment.
Est-ce qu'on a des traces aussi, peut-être plus indirectes, plus subtiles, des biomarqueurs qui sont aujourd'hui plus faciles à traquer avec les instruments technologiques dont on dispose en tant qu'archéologue pour aller dire « Ah tiens, dans tel contenant, il y avait ce qu'on pourrait appeler du fromage ».
Alors oui, donc il y a les analyses chimiques qu'on appelle les ORA, Organic Residue Analysis, qui fonctionnent en particulier par chromatographie en phase gazeuse et qui permettent d'isoler et d'identifier les biomarqueurs donc des graisses animales. Et parmi les graisses animales, évidemment le lait, puisque c'est une graisse animale. Et l'avantage, c'est que ce sont des biomarqueurs qui se conservent bien sur la longue durée par rapport à d'autres biomarqueurs. Avec un problème, c'est que la plupart du temps, il est difficile d'identifier l'origine du lait. Donc on peut identifier le lait, la présence de lait, mais savoir si c'est du lait de brebis, du lait de chèvre, du lait de vache, c'est plus difficile. Et surtout, il est pour l'instant impossible d'identifier la transformation laitière. C'est-à-dire, on peut savoir qu'un pot a contenu un produit laitier, mais était-ce du beurre, était-ce du lait fermenté, était-ce du fromage, c'est plus difficile à savoir.
Alors, on avait consacré il y a peu de temps une émission aux isotopes avec Rosenkolter. Là aussi, est-ce que dans les dents des humains, on peut retrouver des marqueurs atomiques, quasiment, de la présence d'une consommation d'un produit laitier qui serait, oui ou non, du fromage ?
Ah oui, bien sûr. Donc, en effet, les analyses isotopiques permettent de connaître les pratiques alimentaires et, au niveau des humains, permettent de savoir si telle population a consommé du lait. Alors ça, évidemment, c'est très important. Et on va dire que l'idéal, c'est de croiser les différentes données, c'est-à-dire avoir des données archéozoologiques, avoir des données isotopiques sur la consommation humaine et avoir des données chimiques sur les récipients. C'est parfois possible, mais dans la réalité, c'est quand même plus difficile de croiser ces trois types de données.
Donc là, on parle de traces de production de fromage. Est-ce qu'on peut situer la première trace évidente, connue aujourd'hui, et la plus ancienne, de fabrication de fromage de façon 100% certaine ?
Alors, la fabrication de fromage, évidemment, remonte à l'origine de la domestication. Alors, pour des fromages qui aient été conservés, alors ce n'est pas un hasard, le fromage le plus ancien que l'on ait, donc, est en Égypte. Donc, une tombe de Saqqara. Évidemment, là, ce sont les conditions particulières de l'archéologie égyptienne qui permettent la conservation des fromages. On a un fromage très ancien qui remonte aussi à l'âge du bronze, donc qui a été découvert en Chine. Et là, le contexte est vraiment...
C'est étonnant pour la Chine.
Tout est étonnant hein, dans ce contexte. Premièrement, parce que ce fromage n'était pas fait pour être consommé. Hein, c'était les momies qui étaient... c'était une sorte d'offrande et les momies qui étaient enduites de ce type de fromage. Et en plus, on est en Chine, c'est-à-dire à l'âge du bronze et donc population chinoise qui n'est pas connue justement pour la consommation du fromage. Mmh. Donc tout est étonnant dans ce contexte.
Est-ce qu'on a retrouvé des fromages encore vraiment bien conservés ou voilà, comme on a pu retrouver par exemple à Pompéi des pains calcinés? Est-ce qu'on a trouvé des à Pompéi aussi, je sais pas, des
fromages calcinés? Alors au pied du Vésuve, oui, on a découvert du fromage carbonisé au pied du Vésuve. Mais moi, une des découvertes qui m'intéresse le plus, alors ça ne va pas jusqu'à l'Antiquité, mais c'est un fromage qui a été trouvé dans une épave, donc du port de Rhodes, mais une épave byzantine, 12e siècle après Jésus-Christ. Et là, cette découverte est absolument exceptionnelle parce qu'on a du fromage qui était contenu dans une peau de chèvre retournée.
Wow. Alors, votre livre, Dominique Frère, s'intitule, je le disais, « Fromages antiques à la recherche des fromages perdus ». Déjà, pourquoi vous vous êtes orienté en particulier vers cette période antique pour mener votre enquête sur ces fromages-là et bien sûr ensuite essayer de reproduire, et on va goûter même ces fromages tout à l'heure?
Bien, tout simplement parce que je suis donc antiquisant, étruscologue, et on est dans le domaine de l'archéologie de l'alimentation, qui est un domaine qui est désormais bien connu, en particulier à partir des années 1970, le développement de l'archéozoologie, de l'archéobotanique. Mais le problème, c'est que le fromage échappe en partie à ces deux domaines, que l'archéobotanique et l'archéozoologie. Alors qu'on est en lien avec ces deux domaines, par exemple, parce que pour la fabrication traditionnelle du fromage, les ressources végétales jouent un rôle très très important. Évidemment, les ressources animales, dont le lait en particulier et la présure. Et jusqu'à une époque récente, on va dire les années 2020, on a en particulier le livre d'Alain Ferdière sur le fromage en Gaule, et qui est désormais l'ouvrage de référence à la fois pour toutes les sources donc, qui sont présentées dans cet ouvrage, les sources matérielles, les sources textuelles, les sources iconographiques, et qui en font véritablement désormais l'ouvrage de référence. Et donc, on peut dire que c'est seulement depuis les années 2020 que naît, s'épanouit une archéologie, alors du fromage et on l'espère pour la suite des produits laitiers en général.
Quelle était la place du fromage dans le monde antique? Est-ce qu'il y avait aussi, Dominique Frère, des zones déserts géographiques et culturelles qui étaient plus consommatrices de fromage que d'autres?
Évidemment, nous sommes tributaires des sources textuelles. Donc, qui dit sources textuelles pour l'Antiquité, là je ne vais parler que de l'Antiquité gréco-romaine, on a évidemment les sources textuelles grecques, les sources textuelles latines, donc différents types de sources. Donc, vous avez parlé d'Homère, et donc Homère évidemment le premier, dès le 8e siècle avant Jésus-Christ, mais on a de nombreux textes jusqu'à la fin de l'Antiquité, et on va aller après jusqu'à l'époque byzantine, donc qui traitent de, à la fois, on va dire, des modes de consommation de fromage, mais aussi de techniques de fabrication de fromage. Pour d'autres aires culturelles, évidemment, pour les mondes barbares, on va dire le monde celtique, évidemment, c'est plus difficile. Si ce n'est que des auteurs, comme Pline l'Ancien, nous disent que les barbares ne savaient pas fabriquer le fromage.
Ce qui était une erreur, est-ce qui était un cliché? Vous parliez, Dominique Frère, d'Homère. Je ne peux pas résister à l'envie de vous lire un passage de l'Odyssée où il est question de fromage. Ulysse arrive avec ses compagnons dans la caverne de Polyphème, le cyclope. Nous eûmes vite trouvé sa caverne. Il n'était pas chez lui, il était au pacage avec ses gras moutons. Pénétrant à l'intérieur, nous fîmes la revue. Fromage sur tous les clayons, agnelets et chevreaux dans les enclos bondés, chaque âge avait sa stalle à part. D'un côté étaient les aînés, de l'autre les cadets, plus loin les nouveau-nés. Vases remplis de petits laits, terrines et seaux façonnés qui lui servaient à traire. Alors mes compagnons me supplièrent instamment de prendre les fromages, puis de tirer des enclos Agnelet et Chevreau et de regagner sans retard le prompt navire afin de repartir sur l'onde amère. C'est moi qui refusais. Ah, qu'il eût mieux valu pourtant, mais je voulais le voir et savoir ce qu'il m'offrirait, cet hôte. Il n'allait pas se montrer tendre envers les miens. On fit du feu, un sacrifice, et prenant les fromages, on mangea tous assis dans la caverne en l'attendant. Dominique Frère, ça c'est la première trace écrite de la consommation de fromage dans l'Antiquité, c'est ça ?
Alors, de la fabrication et de la consommation. Et anecdote, alors qui est plus évidemment qu'une anecdote, quand Ulysse et ses compagnons entrent dans la grotte, qui est en fait une grotte bergerie très bien organisée, la première chose que voient Ulysse et ses compagnons, ce sont les fromages, les claies qui sont emplies de fromage qui est asséché.
Ça adoucit un peu le portrait de Polyphème, ce monstre anthropophage, qui est aussi un berger fromager tout à fait humble et assez bon finalement.
C'est un très bon éleveur et a priori un très bon fromager, puisque Ulysse se régale des fromages de Polyphème.
C'est pas la seule source textuelle, Dominique Frère, qui atteste de la production de fromage. Vous parliez de Pline l'Ancien également. On peut mentionner un autre agronome romain qui s'appelle Columelle, qui lui écrivait au 1er siècle. Qu'est-ce qu'il vous donne comme indice, Columelle, concernant le fromage, sa fabrication ?
Alors, Columelle ne nous donne pas la recette, hélas, donc du fromage, la manière de fabrication de la manière de fabriquer le fromage, mais il donne des indications en fait à l'usage des bergers. Et à l'usage, on peut dire de ces bergers, parce que Columelle était un grand propriétaire, c'était pas seulement un agronome, il était aussi un grand propriétaire terrien. Et il nous parle des deux modes donc de faire du fromage, et donc une mode qui est pour faire un fromage frais, et un autre mode qui est fait pour fabriquer un fromage qui va se conserver durant l'hiver, c'est-à-dire la période. Donc on ne peut fabriquer de fromage faute de lactation des femelles.
Ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, Dominique Frère, c'est qu'on parle de Homère, voilà, un récit épique. On parle de Columelle, un texte agronomique. Est-ce que d'autres textes, d'autres natures, d'autres approches finalement vont parler de fromage ? Je pense à des philosophes, je pense à des textes religieux éventuellement. Est-ce que le fromage se retrouve à la croisée de toutes ces sources-là ?
Alors, le fromage se retrouve évidemment à la croisée de toutes ces sources, pour la bonne raison que dans le monde grec comme dans le monde romain, le fromage était vraiment l'aliment quotidien. Que ce soit des riches, des pauvres, et le fromage se mangeait d'abord après avoir été trituré, broyé, mélangé au mortier. Et donc, on a de nombreuses recettes qui intègrent du fromage, des recettes pour les riches, mais aussi des recettes pour les plus pauvres. C'est la principale protéine animale que l'on consomme dans l'Antiquité grecque et dans l'Antiquité romaine.
Et ça, c'est pas forcément quelque chose qui se sait, Dominique Frère. Peu de gens le savent finalement. Quand on pense à la nourriture de l'Antiquité, on pense surtout aux fruits. Enfin, on a des images d'épinal qui nous viennent en tête et le fromage n'est pas forcément central, alors que, vous le dites, ça fait partie vraiment du centre de l'alimentation quotidienne.
Oui, c'est au cœur de l'alimentation quotidienne, avec évidemment tous les autres éléments de l'alimentation quotidienne, c'est-à-dire l'huile, le vin, le vinaigre qu'il ne faut jamais oublier, donc les céréales, les légumes, les légumineuses, tout cela joue un rôle important, mais tout cela pouvait être broyé au mortier, justement avec du fromage frais. Quand le fromage était dur et sec, donc on le râpait. Et on a ainsi du simple paysan, donc jusqu'à la cour de l'empereur Auguste, par exemple. Eh bien, on sait que l'empereur Auguste, par exemple, consommait, à son petit déjeuner, consommait du fromage très frais.
Alors, si tout le monde consommait du fromage, qui fabriquait du fromage ? Est-ce que tout le monde était fromager en puissance ?
Alors, tout le monde, non. Quand Columelle écrit son texte, il s'adresse d'abord et avant tout aux bergers. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui est important, mais il faut savoir qu'on a l'attestation de l'existence de fromageries, par exemple, dans des contextes urbains. Pour la bonne raison qu'on sait qu'on pouvait faire fumer le fromage en contexte urbain. On sait que, on peut dire les ancêtres des restaurants, donc que ce soit à Pompéi ou ailleurs, pouvaient aussi faire fumer du fromage. Et on a nombre de faisselles qui sont retrouvées dans des contextes urbains.
Alors, dans ces contextes contexte urbain, s'il y avait un commerce du fromage, est-ce que ça signifie que ce commerce pouvait s'étendre au-delà d'une ville, de la même façon que le vin ou l'huile s'échangeaient dans des aires géographiques plus vastes que celles de leur production? Le fromage était-il aussi un produit d'export, pour parler un petit peu avec des
termes? Ah oui, donc le fromage était évidemment un produit d'export. Alors on a évidemment Pline, l'ancien, qui nous parle des fromages que l'on peut trouver à Rome, donc à son époque, au 1er siècle après Jésus-Christ. Et parmi les meilleurs fromages que l'on peut trouver à Rome, il y a lesquels? Les fromages gaulois. Et il nous dit que ces fromages gaulois viennent de Narbonnaise, de la province narbonnaise ou des environs de la province narbonnaise. Et donc si on avait eu un salon de l'agriculture à Rome au 1er siècle après Jésus-Christ, bien dans la catégorie des fromages frais, voire très frais, les fromages gaulois auraient été primés.
Vous parlez de fromages frais, voire très frais. Justement, quels étaient les fromages qui avaient le goût des Romains et des Antiques, plus globalement? Quel type de fromage était sur leur table et vers lesquels ils allaient en priorité?
Donc, ils préféraient de très loin les fromages frais, voire les fromages très, très frais. On sait pourquoi, parce qu'ils ont un goût pour tout ce qui est mou, en particulier. Les fromages salés, voire très salés, parce qu'ils aiment aussi le goût du sel. Et ils aiment les fromages aromatisés, hein. Alors, les fromages fumés. Le fait de faire fumer le fromage, évidemment, permet de lui donner un goût caractéristique, mais permet aussi la conservation du fromage. Donc, on a deux avantages au fait de fumer le fromage. Et surtout, on nous dit que, justement, dans les recettes, ou plutôt les modes d'emploi que nous donne Columel, on va aromatiser le lait aussitôt après la traite. Donc, vous allez plonger dans le lait, c'est une sorte d'infusion, donc des branches de thym, par exemple, du suc de figuier, qui donne un goût très intéressant au fromage. Donc, on aime d'abord et avant tout le fromage frais et le fromage aromatisé.
Alors, vous parliez de Columel, qui ne donne pas la recette, mais le mode d'emploi. Si on résume, les objets qui servent à fabriquer le fromage sont identifiés, mais sont des preuves assez ténues. On n'a pas de recette exacte. Les gestes pour fabriquer ces fromages aussi nous échappent, comme beaucoup de gestes d'un point de vue artisanal quand on fait de l'archéologie antique. Alors, par quoi on commence quand on est archéologue expérimental comme vous pour essayer de retrouver ces fromages antiques? Comment vous entamez votre processus de fabrication de fromage?
Alors évidemment, la première chose, c'est de se familiariser avec les techniques actuelles de la fromagerie. Donc c'est-à-dire devenir amateur et fabriquer soi-même du fromage, en sachant que ce n'est pas compliqué de fabriquer du fromage chez soi. Mais par contre, fabriquer du bon fromage, c'est autre chose. Et surtout, pouvoir répéter la fabrication du bon fromage. Donc ce qui fait que quand on fabrique à l'échelle domestique chez soi du fromage, parfois il est bon, parfois il est très bon, parfois il n'est pas bon, parfois il n'est absolument pas bon. Parce que, on est amateur, on n'est pas professionnel en fromagerie. Donc ça, c'est la première chose. Donc s'initier donc à la fabrication des différents types de fromages actuels. Et ensuite, faire de l'ethnographie, donc c'est-à-dire s'intéresser aux pratiques anciennes, mais relativement récentes, c'est-à-dire des générations qui nous ont précédés, avec une approche qui est régressive, c'est-à-dire interroger les producteurs actuels, mais les interroger sur donc quelles étaient les pratiques de leurs parents, de leurs grands-parents, voire de leurs arrière-grands-parents, s'ils ont des souvenirs. Et puis, donc cette approche ethnographique, en sachant que moi, je ne suis pas ethnologue, donc cette approche ethnographique, donc là aussi, je ne peux pas devenir un ethnologue amateur. Donc ce qui fait que j'ai eu la chance, grâce donc au CNRS, de résider pendant un an et demi au MUCEB, donc qui est l'héritier du Musée des Arts et Traditions Populaires. Et donc, on a pu aller faire une mission, ce qu'on appelle une mission collecte, une enquête collecte, pardon, donc en Corse et en Sardaigne, justement, pour acquérir les connaissances sur les pratiques traditionnelles et anciennes de la fabrication des fromages.
À partir de ce travail-là, quelles sont, si on doit résumer à gros traits, les grosses étapes pour fabriquer un fromage à la mode antique?
Alors, à la mode antique, premièrement, c'est d'abord la chauffe du lait, l'aromatisation et la chauffe du lait, en sachant qu'il y a différents modes de chauffe du lait. Et on a une pratique qui est restée traditionnelle, alors de l'Antiquité, parce qu'on disait que pour chauffer un lait à dimension médicinale, il fallait le chauffer avec donc des pierres de mer, c'est-à-dire des galets, et donc des galets brûlants. Mmh. Alors ça, on a ça dans des textes sur les laits médicinaux. C'est une pratique qui a existé, par exemple, dans le Pays Basque et a existé en Corse. jusque dans les années 1960-1970, avec une question qui est toute simple que l'on pose, c'est pourquoi chauffer le lait avec des galets brûlants? Ensuite, il y a les méthodes de fabrication de la présure, puisque actuellement en France, je ne suis pas sûr qu'il y ait encore des fromagers qui fabriquent eux-mêmes leur présure. Et là aussi, ce sont des savoir-faire qui ont disparu, mais même depuis longtemps, hein, puisque la présure industrielle donc a commencé à partir de la fin du 19e, début du 20e siècle. Et là, donc il a fallu que je lise les différents traités, en particulier des traités anglais, c'est ça qui est curieux, hein, sur la fabrication de la présure au 18e, début du 19e siècle. Présure animale, je ne me suis pas encore attaqué ici à la fabrication de la présure d'origine végétale. J'ai fait des tentatives, mais ratées jusque-là.
Alors Dominique Frère, c'est l'heure du goûter, j'ai un petit creux et très généreusement vous êtes venu avec l'un de ces fromages. Alors ils sont devant moi là, c'est deux fromages très différents, il y en a un qui est carré, un peu vert, l'autre qui est rond, ocre un petit peu. Dites-moi quels sont les
alors,
deux fromages qu'on a dans l'eau et je déplie mon
couteau. S'il est vert parce que c'est un fromage aux orties, un mélange de lait de vache et de lait de chèvre.
Donc, il est assez tendre, je suis en train
Il est tendre, et oui c'est un fromage qui a un peu plus d'une semaine, donc c'est pas vraiment un fromage frais, peu en présuré, c'est-à-dire je n'ai mis que peu de présure. Donc c'est-à-dire que c'est un fromage qui est vraiment lactique, c'est-à-dire il a mis plusieurs heures à cailler. Il a mis beaucoup de temps à y goûter aussi, donc ce qui en fait un fromage encore plus lactique. Et donc un fromage que j'ai fait fumer.
Alors
donc,
c'est un goût c'est délicieux,
il faut aimer hein, le fromage fumé. Vous pouvez sans doute vous apercevoir qu'il est salé parce que même chez Columel, on voit qu'il faut vraiment saler le fromage. Donc le goût fumé et très salé du fromage, ce sont évidemment des goûts qui ne sont pas forcément nos goûts actuels. Et alors là, ce n'est pas une recette antique, mais c'est une recette que je reprends dans des traités de laiterie et des fromageries des 18e et du début du 19e siècle. Donc du fromage aux orties, qui était très répandu à cette époque. Mais je me dis que, bon, à l'époque antique, comme on utilisait tout ce que l'on pouvait utiliser, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait pu aussi faire du fromage aux orties.
Vous pouvez ouvrir une fromagerie, parce que je viens de le goûter sur un pain à la figue que vous m'avez conseillé d'acheter.
Oui.
Donc je suis venu avec mon petit pain à la figue en studio. C'est vraiment Noël sur France Culture. Et c'est exquis. Ce deuxième fromage-là, qui est dur comme du bois, en revanche, je pense que je vais pas m'y attaquer.
Voilà, donc celui-ci, je ne vous le ferai pas goûter. Donc là, c'est un fromage qui est ancien, donc un fromage qui est très dur, en effet, comme nous le disent les textes. Hein. Alors, fabriqué selon les méthodes de Columel, avec cette notion d'affinage qui n'existait pas chez Columel, cette notion d'affinage qui apparaît vraiment au Moyen-Âge. Et en fait, j'aime bien laisser vieillir des fromages sur la longue durée, hein, pendant des mois, voire pendant des années, pour voir tout simplement l'évolution des fromages. Et ça correspond d'ailleurs au texte, hein, le fromage durci. Alors, il y a des textes qui nous parlent justement des fromages qui sont durs comme de la pierre. Évidemment, dans l'Antiquité, c'est pas ceux que l'on préfère, mais on va quand même pouvoir les utiliser en les râpant pour la préparation d'un plat.
Et donc là, c'était beaucoup plus fort et beaucoup plus marqué comme goût. Je m'y risquerais pas.
Non, moi
aujourd'hui.
Non plus d'ailleurs.
En tout cas, merci beaucoup de l'avoir apporté. Une toute dernière question avant de vous quitter. Dominique Frère, vous étiez venu nous parler d'archéologie des parfums. Aujourd'hui, d'archéologie des fromages, donc on a eu l'odorat, le goût. Jusqu'où peut-on aller dans cette archéologie des sens?
Le problème de cette archéologie sensorielle, c'est que là, le fromage que je viens de vous faire goûter, nul ne pourra dire si ça correspond au véritable goût qui était ceux des fromages antiques. Tout simplement parce que même si on essaye de reproduire les gestes qui étaient ceux donc des bergers de l'Antiquité, eh bien le lait n'est pas le même, les ferments ne sont pas les mêmes. Et donc c'est tout un monde en fait évidemment qui nous échappe. Mais ça nous donne quand même une idée. On n'a pas la prétention de refaire du fromage antique, mais on a la prétention de faire ce qu'on appelle des figures sensorielles pour essayer de se rapprocher à la fois de l'aspect visuel, des odeurs et peut-être aussi se rapprocher des goûts des fromages antiques.
En tout cas, j'avais jamais rien goûté de tel et je me suis régalé. Merci beaucoup à vous, Dominique Frère, d'être venu nous parler de votre enquête archéologique sur les fromages antiques. Je rappelle le titre de votre essai qui se déguste sans fin, Fromages antiques à la recherche des fromages perdus. C'est paru aux presses universitaires de Rennes. Merci encore. Notre exploration du passé touche à son terme. Un grand merci à toute l'équipe, Eve-Étienne, Bruno Sansini, à la réalisation Hélène Trigueros et Olivier Bétard. Merci à Alex Dang, aujourd'hui à la technique, et merci à nos partenaires l'INRAP et l'INA. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une nouvelle exploration du passé au présent.